Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs, du lundi au vendredi sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, le peuple algérien, ce héros. Dans 6 semaines, cela fera exactement 1 an que chaque vendredi à Alger, dans les grandes villes d'Algérie, la population descend dans les rues de manière pacifique pour protester contre, je cite, le système. C'était le cas encore ce matin, et vous l'avez entendu à l'instant, au lendemain de la remise en liberté de plusieurs figures de la contestation et du mouvement, le Irak, comme on l'appelle. Mais quel est ce peuple qui a surpris l'an dernier tous les observateurs, jusqu'alors persuadés de se trouver face à une société quasi anesthésié, et pourquoi continue-t-il ce peuple à protester presque 1 an après le début des manifestations le 22 février? Nous allons en parler avec nos 3 invités, Karima Diresh en duplex de France Bleu Provence qui les accueille, historienne, spécialiste du Maghreb, membre du laboratoire Telem à Aix-en-Provence et qui a coordonné le livre collectif L'Algérie au présent entre résistance et changement sorti cette année chez Cartala. Pierre Vermeuren sera avec nous au téléphone, il est historien, il est spécialiste du Maghreb, professeur à Paris 1 Panthéon en Sorbonne et auteur récent du Déni français, notre histoire secrète des relations franco-arabes chez Albin Michel. Et avec nous en studio à Paris, Akram Belkaïd, il est journaliste au Monde diplomatique, chroniqueur au quotidien d'Oran, dans lequel vous avez publié, Akram Belkaïd, le 26 décembre dernier, un éditorial qui s'intitule « Le peuple algérien, personnalité de l'année 2019 ». Alors justement, parlons-en de ce peuple algérien, puisque vous avez décrété que c'était la personnalité de l'année, ce peuple, les hommes et les femmes qui descendent dans les rues d'Alger. Mais quel est-il et comment peut-on le qualifier? Parce que c'est difficile de qualifier un peuple. On sait qu'à Rome, il y a le populus et la plebs. Qu'est-ce que le peuple algérien que vous décrivez comme personnalité de l'année, Akram Belkaïd?
Bonjour. C'est une vaste question. Le peuple algérien qui est descendu dans la rue est un peuple avec beaucoup de composantes. Il n'est pas uniforme, c'est un regroupement de plusieurs classes sociales déjà, notamment ce qu'on appelle les classes moyennes, mais aussi les classes populaires. Mais dans les rangs du Hirak, on retrouvait aussi des gens, des classes aisées, qui étaient tous unis, en tous les cas, par rapport à un premier objectif, qui était d'abord de dire non, il faut le rappeler, à un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika, le président de l'époque. Il y a 1 an, début janvier 2019, les Algériens vivaient une espèce de, je dirais, neurasthénie assez forte lorsqu'ils voyaient venir tous les signes annonciateurs d'un 5e mandat, en tout cas du moins d'une candidature de Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Et c'est finalement un peuple varié avec des composantes multiples qui est sorti dans la rue.
Et ce peuple, d'une certaine façon, Karima Diresh, bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Karima Diresh, bonsoir. Donc, ce peuple, ça n'est pas la foule, ça n'est pas, par exemple, ce qu'on a toujours qualifié de façon très bizarre, parce que j'ai toujours trouvé ce terme bizarre, de rue arabe, quand on voulait parler de toutes les manifestations qui se déroulaient depuis des années et des années dans tous les pays arabes. Avant le printemps arabe, on parlait la rue arabe est descendue pour protester contre ceci, contre cela. C'est autre chose que nous voyons à Alger depuis maintenant presque 1 an.
Ah oui, complètement. La rue arabe, c'est vraiment une représentation extrêmement condescendante, en fait, des mobilisations collectives de la rive sud de la Méditerranée et qui renvoient à des représentations coloniales. Et en fait, ce qui se passe depuis le 22 février renvoie à quelque chose d'assez phénoménal, puisque les Algériens, en fait, depuis le 22 février, nous livrent une chorégraphie contestataire extrêmement élaborée, qui s'est complexifiée effectivement depuis maintenant presque 1 an, et nous avons affaire à quelque chose dans le répertoire d'action, politique, de quelque chose de tout à fait original. Ça, c'est une chose, la première chose à dire. Et donc, on n'est pas du tout dans la foule arabe, ce qui voudrait dire, en fait, quelque chose de compact, de quelque chose qui n'est pas tout à fait identifié. Là, on a une espèce d'entité collective intelligente, en tout cas dans son répertoire d'action, et qui nous livre effectivement des pratiques de la contestation extrêmement étonnantes.
Pierre Vermeuren, bonsoir. Vous êtes au téléphone avec nous. Vous êtes historien, je le rappelle, spécialiste du Maghreb, et vous avez beaucoup travaillé justement sur cette longue histoire des relations entre la France et ses anciennes colonies du Maghreb. Qu'est-ce que, justement, vu d'ici, ce que nous voyons se dérouler, et vous avez participé, par exemple, récemment à un numéro d'Esprit, comme d'ailleurs Akram Belkaïd, qui s'intitule le soulèvement algérien. Qu'est-ce que ce que nous voyons sous nos yeux, en quoi est-ce différent de ce que l'on a vu à d'autres moments de l'histoire algérienne?
C'est différent, bien sûr, parce que, si vous voulez, le pouvoir a dû reculer. C'est pas la débandade de 1988-89. C'est toutefois un recul organisé qui a fait sortir finalement l'équipe présidentielle en place et mettre en prison parmi les grands chefs, notamment du renseignement, ce qui paraissait totalement invraisemblable. Alors donc c'est à la fois nouveau, mais c'est en même temps la succession d'événements anciens qui remontent pratiquement aux années 60. Vous connaissiez la formule de la révolution algérienne, un seul héros, le peuple. Et vous connaissez aussi l'état d'humiliation finalement dans lequel a longtemps et vit encore ce peuple qui a été un peuple combattant pour sa liberté et qui se retrouve aliéné dans ses libertés privées et surtout politiques. Et donc on a vu une succession d'événements, on ne peut pas y revenir en quelques secondes, mais en tout cas des événements très nombreux qui, sous les différentes présidences autoritaires qui ont dominé l'Algérie depuis 1962, qui ont toujours essayé de faire entendre la voix d'une autre Algérie. Et cette voix, elle a porté particulièrement fort à l'occasion de la comédie du pouvoir qui a été donnée par les frères Bouteflika, l'un étant totalement invalide et l'autre ayant pris d'autorité depuis 2013 pratiquement les rênes du pouvoir.
Donc, oui, parce que vous insistez beaucoup, Pierre Vermeuren, sur l'idée que ce soulèvement, même si personne ne l'a vu venir d'une certaine façon, ce Irak que nous voyons, ce mouvement tel qu'il se déploie depuis maintenant presque un an, eh bien, il y avait des contestations, il y avait dans cette société algérienne qu'on voulait voir figée, il y avait néanmoins des tentatives très régulières pour pouvoir justement secouer le joug du pouvoir.
Bah oui, d'autant plus que ce peuple a été élevé dans la culture révolutionnaire par son propre État. La révolution, le maquis, les moudjahidines, à tel point que même les islamistes, dont a priori c'est pas la culture, se sont levés dans les années 90 pour en finir avec le régime. Alors là, on assiste à un soulèvement beaucoup plus pacifique, en tout cas on le voit depuis presque un an, comme vous l'avez dit, mais au fond les slogans sont des slogans de dignité, de liberté, qui veulent mettre fin au népotisme, à la corruption et finalement à l'arbitraire qui est le mode constant de ce pouvoir algérien jusqu'à ces derniers mois. Donc c'est vrai que il y a eu des dissidents, il y a eu des émeutes, il y a eu des résistances, il y a eu des soulèvements, il y a eu une guerre civile et maintenant il y a des partis politiques qui sont un peu dépassés, mais on voit que c'est le peuple lui-même qui a pris les choses en main.
C'est ce que vous dites Akram Belkaïd quand vous dites dans cet éditorial du quotidien d'Oran, le peuple s'est surpris lui-même. Il a surpris les observateurs, parmi tous ceux qui regardaient la situation algérienne, la plupart ont été surpris par ce qui se passé, mais il s'est surpris lui-même. Comment s'est-il surpris lui-même, ce peuple algérien?
Je pense qu'il s'est surpris lui-même d'abord par le nombre. Tous les témoignages qu'on commence à compiler aujourd'hui montrent que le 22 février a été une surprise, que beaucoup de gens d'ailleurs ne sont pas sortis le 22 février, ont attendu le 1er mars et le 8 mars, c'est-à-dire les deux vendredis qui ont suivi, parce que au départ, ils se méfiaient d'un coup tordu, ils se demandaient si les forces de l'ordre n'allaient pas faire comme en octobre 88, à savoir ouvrir le feu sur la population. Donc il s'est surpris par rapport à ça, et il est surpris aussi par rapport au caractère pacifique.
Non-violent.
Non-violent, et aussi par rapport au caractère national. Parce que effectivement, comme le disait Pierre Vermeuren, il y a eu dans l'histoire de l'Algérie indépendante énormément de contestations, mais c'est la première fois qu'on a un mouvement aussi important, mais à toute l'échelle, sur toute l'échelle du pays, dans les grandes villes. Pas un mouvement localisé de protestation, c'est pas juste la Kabylie, c'est pas juste Alger, c'est pas juste les grandes villes du Nord. Donc là, c'est pour le coup un mouvement assez important qui a beaucoup bénéficié de la caisse de résonance des réseaux sociaux, parce qu'on voit bien dans toutes les images qu'on voit, les gens qui défilent se filment eux-mêmes, relaient ça, et tout cela entretient une espèce de dynamique qui n'est pas prêt de cesser.
Oui, Karima Diresh, en plus, on peut dire que les intellectuels qui observaient la situation algérienne se désespéraient d'une certaine façon d'une possibilité de soulèvement, disaient que ce peuple, entre guillemets, et c'est ce que dit dans son éditorial Akram Belkaïd, était inculte, qu'il n'avait pas de culture politique. Or, ce que l'on voit se mettre en place depuis maintenant un an, et c'est très surprenant, mais ça n'est pas le cas d'ailleurs qu'en Algérie, c'est justement une politisation régulière, constante, qui travaille par ses rassemblements réguliers tous les vendredis, qui travaille le cœur de la population, Karima Diresh.
Oui, les lectures qu'on avait effectivement de la société algérienne étaient celles d'une société, on va dire, dépolitisée, encore en situation post-traumatique, qui n'a pas digéré les violences de la décennie 90, très peu intéressé par la politique, et qui s'est en fait réfugié dans des pratiques conservatrices, religieuses, etc. Et en fait, effectivement, le 22 février, c'est une surprise divine, puisque nous découvrons une société en fait que nous ne voyions pas. Donc une société, pourtant, une société civile qui était totalement inaudible, en fait, qui nous explose à la figure, et il est vrai que ces manifestations sont aussi une surprise pour les manifestants eux-mêmes qui se découvrent et se redécouvrent. Et ces manifestations, elles sont marquées par, Akram le disait tout à l'heure, la très grande diversité des manifestants, bien évidemment avec toutes les différentes sensibilités et les différents segments de la société. Et nous avons bien évidemment une très forte jeunesse, bien sûr, puisque c'est à l'image de la démographie du pays, mais avec ces groupes sociaux très différents qui sont très conscients à la fois du risque des dérapages et des violences potentielles, et qui ont parfaitement retenu les leçons des grandes révoltes de 2011. Et en cela, il faut souligner encore une fois que en Algérie, on a une jeunesse qui a un niveau d'éducation sans doute le plus élevé des mondes musulmans et africains, et qui est connectée depuis longtemps sur les réseaux sociaux, et qui n'est plus sensible au chantage de la guerre civile et des menaces de chaos, etc. Et la deuxième chose à souligner, et c'est en ce sens-là que je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est que le régime, en fait, comptait sur le conservatisme, je dirais, traditionnel des villes de l'intérieur du pays, des provinces algériennes. Or, la révolte a commencé à l'intérieur de Kharrata, de Borj Bouhariri, du monde rural, en fait, de ces petites villes que l'on croyait encore maintenues dans des soumissions révérencieuses et dans des allégeances à l'égard du pouvoir. Et il n'a pas compris que les relations entre les grandes villes et la campagne avaient considérablement évolué et que ne sont plus celles de l'après-indépendance. Nous avons, depuis 62, un régime qui continuait à gérer le pays et à diriger le pays comme s'il avait affaire à un peuple d'analphabètes.
Et tout de même, il y a des choses qui n'ont pas toujours changé. Certes, la répression a été moins sévère qu'à d'autres moments de l'histoire de l'Algérie, mais néanmoins, il y a des arrestations nombreuses, des libérations aussi, comme ça a été le cas hier de Lakhdar Bourega, qui a été arrêté et qui était une sorte de symbole, et qui a été libéré hier. Il avait 86 ans, un ancien membre de l'ALN, qui avait été arrêté le 30 juin pour outrage à corps constitué, en l'occurrence. Certains d'autres ont été également libérés. On les écoute, ils étaient interrogés par France 24.
C'est une faveur de Dieu avant tout, et grâce aux efforts du peuple algérien, des avocats, qui ne nous ont pas abandonnés, et de nos maires. Le peuple algérien continue de se battre et de tout mettre en œuvre pour restaurer la liberté et l'indépendance.
Je dis au peuple algérien de ne pas transiger sur ces principes pour lesquels nous sommes tous sortis le 22 février 2019. Nous ne devons pas céder, et j'ajoute également qu'il est nécessaire de rompre avec ce régime.
Dieu merci, nous sommes sortis de prison. J'ai été arrêté le 13 septembre chez moi. Vous savez pourquoi ? Parce que je manifestais pacifiquement. Je voulais que les choses changent. On est sortis et on s'est rebellé pour l'Algérie. Et pendant 4 mois, j'étais en prison.
76 militants du Irak ont été libérés hier. C'est une déclaration de trois d'entre eux que nous venons d'entendre recueillie par France 24 et par Euronews. Pierre Vermeren, cela, ça fait partie des, disons, des constantes du gouvernement algérien. Le respect de l'armée, le respect de la présidence de la République, nouveau président de la République depuis le 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune, mais également du chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major après la mort de Ahmed Gaïd Salah, Saïd Chengria, ou encore du premier ministre qui vient d'être nommé Abdelaziz Djerad.
Oui, je ne comprends pas très bien le sens de la question.
Non, mais il y a toujours cette permanence de la question de la répression, même si cette répression n'a pas l'ampleur répressions précédentes. Mais néanmoins, il y a toujours cette volonté de tenter justement d'imposer la loi du système, comme l'appellent ceux qui descendent dans la rue toutes les semaines.
Je vous avez tout à fait raison, d'autant plus que, bien sûr, les événements qui se passent sont tout à fait considérables et inattendus et très heureux. Mais en même temps, le régime peut se dire qu'il peut quand même compter sur une base. Des millions d'électeurs ont quand même voté pour les candidats du régime. Une majorité a voté pour Tebboune, mais au total, ce sont près de 7 ou 8 millions de personnes qui ont voté, qui ont participé. Alors si on enlève en plus toute la fraction de la population algérienne qui existe, hein, qui est dépolitisée ou qui veut partir ou qui ne croit plus en rien, donc il y a bien sûr une Algérie protestataire, mais le régime peut quand même s'appuyer sur une base. C'est un parti, le FLN, qui est là depuis très longtemps, avec ses différents relais, l'organisation des Moudjahidines, l'armée, enfin, il y a tout un tas de gens qui peut-être sont contents que les choses changent, mais qui ont quand même très peur de ce qui pourrait advenir, hein, il y a déjà l'expérience du passé, et donc le fait que l'appareil d'État fonctionne, la semaine dernière il y a eu des manifestations qui ont été perturbées par ce qu'on appelle des baltagias, c'est-à-dire des perturbateurs ou des anticasseurs, je ne sais pas, qui sont probablement sous-oyés par tel ou tel pouvoir. La justice travaille comme on lui dit de le faire, elle met en prison des personnes quand elle doit le faire, mais elle peut les libérer aussi bien. Elle peut condamner d'anciens premiers ministres. Donc l'appareil d'État, il tourne. L'armée, la police, les pouvoirs publics, d'ailleurs, c'est rondement mené. On voit qu'il y a eu les élections en Tunisie il y a un mois. Il n'y a toujours pas de gouvernement en Algérie. Il y a un gouvernement immédiatement.
C'est fait pour la Tunisie aujourd'hui, je crois.
Ah, ça y est, c'est fait. Bon, voilà. Très bien. Alors, je date. Mais tout ça pour dire que, vous voyez, il y a quand même cette base qui n'est pas franchement Hirak, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, Akram Belkaïd, plus d'un tiers des ministres du nouveau gouvernement sont des 28 ministres, sont des anciens de l'équipe sortante, donc ça n'est pas un véritable renouvellement, loin de là, de la politique algérienne. Et de toute façon, effectivement, beaucoup de ceux qui descendent chaque semaine dans les rues disent « nous ne voulons plus de ce jeu-là, d'une certaine façon, Akram Belkaïd ».
Oui, on ne pouvait pas attendre plus, de toutes les façons. C'est un système qui se meut avec difficulté, qui bouge doucement, qui fait des concessions toujours à rebours, en retard. Les libérations que vous avez évoquées, effectivement, sont, à mon avis, un geste de conciliation, mais ça arrive trop tard. Ça aurait beaucoup contribué à calmer les choses si d'abord il n'y avait pas eu d'arrestation et si ensuite elles avaient eu lieu bien plus tôt, peut-être même avant l'élection présidentielle. Vous parliez, Karima Diarech, tout à l'heure, évoquait la maturité politique et ce qui a fait irruption dans le discours national. Ce qui est intéressant, c'est par exemple d'entendre et de voir et de lire des Algériens, notamment des jeunes, par rapport aux libérations hier, dire « mais attendez, on est content parce que bon, les gens sortent de prison et sont, pour certains, la procédure suit son cours. C'est juste une liberté provisoire avant le procès.
Bien sûr. C'est d'ailleurs le cas, je crois, de Lakhdar Bourrega.
Exactement. Mais si les gens disent, mais attendez, ils se sont retrouvés en prison à cause d'un coup de téléphone et ils sont sortis de prison à cause d'un coup de téléphone, sans comprendre le pouvoir. Donc on n'est pas dans un processus d'indépendance de la justice, et c'est ce que veulent les manifestants. Et ça, si vous voulez, ça traduit la nouvelle réalité que ce système a encore du mal à appréhender, a encore du mal à comprendre. C'est des jeunes qui, par exemple, sont dans la rue pour dire « nous voulons un état civil, pas un état militaire », qu'on poursuit pour atteinte à corps constitué, ce qui est quand même assez incroyable, assez scandaleux. C'est aussi la nouvelle donne d'une population et d'une société qui a énormément évolué, et d'un régime qui reste encore cramponné à des repères d'avant-hier. Je ne parle même pas de repères d'hier.
Karima Diresh, oui, parce que ce peuple, donc héros, selon Akram Belkaïd, de ce qui est en train de se passer, de ce Irak en Algérie depuis presque un an, eh bien, c'est au nom de ce peuple aussi que le gouvernement gouverne. Il se veut un gouvernement populaire. Or, effectivement, il est opposé à ce propre peuple qui descend dans la rue.
Vous savez, en Algérie, les Algériens vous disent tout bouge et rien ne change. Hein. C'est-à-dire que les dirigeants continuent à faire tourner la boutique, entre guillemets, dans une Algérie qui s'est complètement transformée. C'est en ce sens-là que c'est intéressant. Et pour rebondir à ce que disait tout à l'heure Pierre Vermeuren, justement sur les non-hirakistes, nous avons effectivement une Algérie qui s'est révélée à elle-même et qui va avoir à concilier justement les différentes sensibilités et trouver un consensus. Et pas qu'un consensus uniquement pour aller marcher tous les vendredis ou tous les mardis. Et peut-être que ces Algériens qui sont allés voter, alors 8 millions de gens d'Algériens qui ont voté, je ne sais pas vraiment, Pierre, je ne sais pas d'où tu as tiré tes chiffres, mais on ne sait pas, étant donné qu'on connaît les conditions dans lesquelles ces élections présidentielles ont été organisées et on connaît les pratiques de bourrage d'urne et de tromperie, je dirais, sur les chiffres, donc ça on ne sait pas, mais peut-être effectivement que ces Algériens qui sont allés voter, c'est peut-être ces Algériens aussi qui sont allés suivre le convoi funéraire de Gaït Salah, où on a vu effectivement des foules qui étaient considérables, pleurer.
L'ancien chef d'état-major.
L'ancien chef d'état-major.
Et l'homme fort du régime.
Mort, l'homme fort du régime, qui a eu à gérer le Hirak durant ces 10 derniers mois. Et donc c'est peut-être ceux-là aussi, effectivement, qui sont frileux, craintifs, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, et qui considèrent l'armée algérienne comme étant la figure tutélaire qui garantit la sécurité du territoire algérien et la sécurité de tous les Algériens, puisqu'on a quand même une longue, longue tradition en Algérie, hein, depuis la guerre d'indépendance, la guerre de libération, et puis la façon dont l'État indépendant s'est installé, effectivement, la matrice, c'est la matrice de l'armée nationale populaire, d'abord l'armée de l'ALN, l'armée de libération nationale, qui est devenue l'armée populaire nationale, comme étant la seule garante, justement, à assurer la bonne gouvernance et la sécurité.
Vous parliez tout à l'heure, Karima Diresh, du nouveau répertoire d'action qu'avaient proposé justement tous ceux qui descendaient dans la rue. Un exemple, évidemment, cette Casa del Mouradia qui est chantée partout dans les rues depuis maintenant 46 semaines.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Voilà, donc ce chant qui est régulièrement utilisé par les protestataires, comme d'ailleurs, je crois, la chanson du rappeur Soul King Liberté, Akram Belkaïd. Que dit-il, ce chant de la Casa del Mouradia?
La Casa del Mouradia, c'est un chant des ultras de l'USMA, un club de foot d'Alger, qui passe en revue les quatre mandats de Abdelaziz Bouteflika de manière assez critique et qui, en gros, dit « on nous a eu avec le premier mandat en nous vendant le risque d'une guerre civile et in fine, c'est une kleptocratie qui s'est installée avec des voleurs » parce que la Casa del Mouradia fait référence à la série La Casa del Papel qui met en scène des braqueurs. Et la chanson que vous évoquiez par la suite, « La liberté »
de Soul King,
est elle-même inspirée d'un chant de ces mêmes ultras qui s'appelle Ultima Verba et qui là aussi mettait en cause le régime algérien.
Oui, et Pierre Vermeuren, c'est peut-être aussi cela qui a surpris les observateurs, les universitaires qui travaillaient sur l'Algérie quand ils ont vu surgir tout cela, c'est qu'on ne regardait pas forcément dans les tribunes des matchs de foot pour comprendre justement où se passait cette politisation qui allait déboucher dans des manifestations monstres dans les rues des grandes villes algériennes.
Absolument. Je rebondis juste une seconde sur ce que vient de dire Akram, parce que c'est tellement évident pour lui que la Mouradia, c'est l'Élysée algérien, ouais, qu'il n'a pas dit. Mais effectivement, les stades ont été un lieu de politisation. On connaît le même phénomène en Égypte, à tel point que le gouvernement égyptien est régulièrement obligé de fermer carrément les stades ou de les interdire. Mais en Algérie, le risque n'a pas été perçu, alors qu'on sait que le football, depuis la période coloniale, a été un enjeu politique tout à fait important, enfin en tout cas au XXe siècle, et ça n'a pas cessé. Alors c'est vrai que ça, il y a un patriotisme de quartier, de ville, il y a le club militaire, il y a le club de Kabylie, etc. Mais là, évidemment, c'est devenu un espace d'expression des jeunes hommes rassemblés par milliers toutes les semaines et qui ont fini par forger un espace politique particulier, d'où est parti effectivement le mouvement, puisque les premiers slogans anti-Bouteflika et anti-cinquième mandat sont partis de certains grands stades et ont débordé dans l'espace public.
Karima Diresh, sur ces surprises, pourrait-on dire qu'a offertes au monde entier ces protestations, qu'ont offertes les protestations dans les rues d'Alger, mais des grandes villes algériennes. Il y a cette surprise venant des stades, mais il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres. Il y a tous ces collectifs de paroles qui occupent l'espace public et le débat public. Ce qu'on n'a pas dit depuis le départ, c'est que les premières manifestations ont enfreint, en fait, une ligne subversive qui était celle d'occuper l'espace public. Les Algériens n'ont pas occupé l'espace public. Les quelques fois où ils occupent l'espace public, c'est toujours, ils le payent extrêmement cher. Je veux dire, la répression, elle est très forte. Et l'espace public a été totalement confisqué aux Algériens. Donc on a quelque chose de remarquable. Ils se sont réappropriés cet espace-là. Oui, et donc on voit...
Oui, oui, allez-y, continuez.
Et on voit apparaître effectivement des groupes de parole, des collectifs qui prennent en main la parole publique et la parole politique. Et c'est vrai que c'est en ce sens-là, quand on les écoute, et on est frappé par la conscientisation extrêmement fine du politique et l'extrême connaissance justement des élites politiques et des élites dirigeantes. Ça me rappelle justement ce panneau magnifique qui disait « Vous avez affaire à des générations dont vous ne savez rien et qui savent tout de vous ».
Ce qu'on peut lire sur un blog, un travail collectif d'universitaires sur hypothèse.org qui s'intitule Texture du temps, qui est mené entre autres par Malika Rahal, sous la plume d'Arthur Assaraf, c'est que faire peuple à Alger, dit-il, c'est faire qu'une entité fugace qui menace à tout moment de s'effacer s'inscrive dans l'espace des grandes villes algériennes. Et il explique comment justement ce peuple algérien, eh bien, a trouvé la possibilité de reprendre certaines des grandes places qui avaient été créées par les Européens pendant la colonisation, de les détourner et faire en sorte aussi qu'il se prenne en photo dans ces endroits avec la foule derrière lui, montrant justement le grand nombre de participants à chacune de ces manifestations à Kram Belkaïd. Ça fait partie aussi, vous le disiez tout à l'heure, de la popularisation de ce mouvement par l'intermédiaire des réseaux sociaux, avec soi-même en selfie, avec derrière une masse incroyable de protestataires.
Oui, c'est aussi un peu l'air du temps, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on retrouve un peu partout dans... Karima Diresh le disait tout à l'heure, la jeunesse est aussi la même un peu partout, et donc il y a cette omniprésence des appareils, des smartphones, des appareils téléphoniques intelligents. On voit des gens se balader avec des perches pour pouvoir prendre
des selfies
pour pouvoir prendre des photos panoramiques. On a eu des images filmées à partir de drones, donc de gens qui ont filmé notamment les cortèges de la rue d'Idouche Mourad. Tout ça étant effectivement une occupation de l'espace public et d'une certaine manière
une reconquête aussi de l'espace.
Une reconquête et aussi j'aime bien cette formule qui a été utilisée par un confrère, c'est le fait que finalement la population regarde le système dans les yeux, en lui disant on n'a pas peur. On est dans la rue et on n'a pas peur. Et on a eu comme ça, il y a eu des moments de tension, par exemple lorsque les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour disperser la foule et que la jeunesse, notamment celle qui venait des stades et qui est habituée aux confrontations avec les forces de l'ordre, a commencé à chanter, puisque vous avez de l'eau, amenez-nous du shampoing et du savon pour que nous puissions terminer notre toilette. Donc il y a eu un moment de bras de fer vis-à-vis avec un pouvoir qui, lui, jusqu'à présent, a toujours, en réalité, on parlait du peuple pour commencer, en commençant l'émission, qui a toujours méprisé. Parce que la question, elle est là aussi. C'est un système et un pouvoir politique qui a toujours eu un mépris cri profond, mais réellement profond pour la population et pour le peuple, considérant qu'il était sa propriété.
Pierre Vermeuren, vous dites d'ailleurs que, alors qu'un des slogans de 1962 et de l'indépendance était l'indépendance du territoire, il faudrait maintenant voir dans ce qui est en train de se passer peut-être l'indépendance du peuple, justement, c'est-à-dire ce peuple qui prend son indépendance par rapport à ceux qui sont censés le gouverner, Pierre Vermeuren.
Le problème, c'est que c'était déjà le programme en 1962.
Oui, c'était le programme qui n'était pas appliqué.
Et oui, c'est ça. Il y a eu, mais de fait, l'indépendance nationale devait accompagner les libertés publiques et politiques, et on en est resté à la liberté de l'État finalement. Et donc ça, il s'en est suivi une très très longue histoire. Vous savez qui ne prend fin pratiquement que ces jours-ci avec la disparition de Bouteflika et la disparition de Gaït Salah finalement, puisque cette génération qui se sentait parfaitement légitime pour mépriser le peuple parce qu'elle considérait qu'elle avait vaincu les armes à la main la France. Elle n'avait rien d'autre à prouver. Là, on change de génération, on va arriver sur des générations qui vont être obligées d'être plus prudentes parce que la légitimité, elles ne l'ont que par la continuité des choses, elles ne l'ont plus par la valeur ou du combat. Et donc, le changement est tout à fait majeur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas sans transition parce que l'État derrière lui, il y a tout un appareillage. L'association des Moudjahidines, le FLN, le parti, les grands syndicats qui sont muselés, l'appareil d'État, l'appareil policier, tout ça est très compact et tout ça tient la légitimité qu'il faut totalement reconstruire. Et d'ailleurs, on voit bien que cet État, il hésite. Il laisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les journalistes français ou étrangers dans les rues d'Alger. Le reportage de France 24 dont vous parliez, ça veut dire qu'il y a toujours des journalistes qui travaillent sur place. C'est assez rare. Et ça veut dire que cet État, on n'est pas en Chine populaire, on n'est pas au Tibet. On est dans quelque chose qui est au cœur de la Méditerranée.
Même si, dites-vous, effectivement, le plus difficile, c'est de parler depuis la France de l'Algérie, parce que vous expliquez dans un article récent, Pierre Vermeuren, que, effectivement, la France est toujours gênée de parler de ce qui se passe en Algérie, ne sait pas très bien comment faire. Autorité française, presse française, oui, etc.
Tout à fait. Y a beaucoup de gens qui ne seraient pas très gênés, mais ils savent que, de toute manière, c'est ouvrir la boîte à gifles parce que le point de vue est extrêmement complexe. C'est vrai que si l'Europe... ce qui n'a pas été dit, c'est quand même que malgré tout, il y a quand même un lien qui reste extrêmement puissant avec la France, ne serait-ce que par le biais de l'immigration où se trouve 90% de la diaspora algérienne à peu près. Les réseaux sociaux et les télévisions et l'internet n'ont pas diminué l'intensité des relations. Par contre, l'ignorance de la situation nationale, même si ça change peut-être actuellement, de la part de nos dirigeants est très importante, puisqu'ils ont été finalement ils se sont tenus eux-mêmes dans l'ignorance de ce pays en faisant une confiance aveugle aux autorités algériennes, mais c'est ce qui leur est reproché aujourd'hui. Et à l'inverse, en cas de prise de participation dans le débat algérien, on leur dit « mais attendez, vous êtes qui? Vous intervenez de l'extérieur, vous n'êtes pas légitime ». Du coup, ce silence tout à fait impressionnant auquel on assiste depuis 10 mois.
Un dernier mot, Karima Diresh, justement sur cette difficulté à parler de la situation algérienne depuis, par exemple, comme nous le faisons aujourd'hui, depuis Paris.
Vous savez, la relation...
Ou depuis Marseille, puisque vous êtes à Marseille. Là.
La relation bilatérale franco-algérienne est toujours d'une très très grande sensibilité. Et je pense que les diplomates français en poste en Algérie doivent pas avoir une partie facile. Bon, en même temps, il y a quelque chose... on a l'impression un peu que le chrono s'est bloqué dans des années où le pouvoir algérien terrorise d'une certaine façon le pouvoir français par le contentieux colonial et par la violence coloniale, et on est toujours dans le même répertoire, je dirais, discursif, et qui tétanise évidemment les dirigeants français et la chancellerie française en Algérie. Moi, ce que je souhaiterais dire et rajouter, c'est ce qu'il faut souligner, et on le constate toutes et tous, c'est cette espèce d'écart vertigineux entre un pouvoir bloqué dans des pratiques de gouvernance d'un autre âge et qui semble complètement perturbé par le répertoire d'action de la mobilisation citoyenne, de ce pacifisme et de cette société qui s'est révélée à nous, cette société algérienne qui est bien plus connectée, bien plus moderne, bien plus inventive que ce que les élites dirigeantes ne le pensaient, tant elles étaient en fait confinées dans un entre-soi et une arrogance, et elles n'ont rien vu venir. Et en fait, fait, ce qui est absolument formidable aujourd'hui, c'est que si le slogan « Un seul héros, le peuple » est repris dans le Hirak, c'est également pour renouer justement avec cette logique révolutionnaire qui est celle de dire que le peuple algérien cherche une deuxième indépendance. Mmh. Et en fait, il y a tout cet imaginaire national populaire qui a façonné la représentation Bien du sûr. Peuple algérien comme entité d'action historique et sacrificielle, mais aussi comme entité politique collective qui est portée par les idéaux de la révolution de novembre 54. Et là, c'est une réappropriation de l'histoire de l'Algérie qui se libère, qui n'a plus rien à voir avec cette histoire de l'héroïsme désincarné qui est racontée dans les manuels scolaires algériens.
Un dernier mot, Akram Belkaïd, sur un tout autre sujet. Je profite du fait que vous êtes en train de préparer pour Manière de voir et Le Monde diplomatique un numéro consacré au Moyen-Orient et en particulier à ce qui s'est passé du côté de l'Irak. Je sais bien que Maghreb et Mashrek n'ont pas grand-chose à voir et que ça n'est pas ce monde arabe qu'on décrit comme unifié dont on parle en général. Ce qui s'est passé cette nuit avec l'attaque américaine, vous pensez que cela peut avoir des conséquences graves dans la région en particulier, puisque vous travaillez sur les Kurdes et sur d'autres sujets?
Clairement oui, parce que ça aggrave les tensions entre les États-Unis et l'Iran, mais c'est surtout que ça pose un vrai souci à tous ceux qui sont aujourd'hui dans la rue à Bagdad notamment. Cette jeunesse irakienne qui manifeste et qui
parce qu'il faut rappeler effectivement que beaucoup de gens manifestent ces temps-ci aussi, pas simplement algériennes.
On les a oubliés, qui sont un peu les cousins ou les frères de la jeunesse algérienne, ou en tout cas des Algériens qui sont dans les rues. Et aujourd'hui, ce mouvement de protestation qui veut un changement du système politique en Irak est en porte-à-faux parce que il est accusé par le gouvernement irakien, mais aussi par les forces pro-iraniennes de trahison dans un contexte de tension et d'affrontement avec les États-Unis. Donc ça va être très très compliqué, ça tombe au très mauvais moment pour le Hirak irakien, puisque c'est ainsi aussi que l'on désigne ce mouvement de protestation populaire.
Pierre Vermeuren, vous qui venez de publier un article dans le Figaro sur les chrétiens massacrés dans le monde, et en particulier les chrétiens massacrés au Proche-Orient, est-ce que justement, vous qui vous êtes intéressé toujours à l'histoire du Maghreb et pas à cette histoire du Proche-Orient, est-ce que justement vous voyez dans ce qui vient de se passer quelque chose de grave ?
D'autant plus que on a entendu parler de bruit de bottes non seulement au Moyen-Orient, mais en Libye. Je vous rappelle que le gouvernement algérien a annoncé qu'il ne laisserait pas, il y a quelques jours, le gouvernement ou l'armée, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, il a été dit que l'Algérie ne resterait pas les bras ballants en cas d'intervention en Libye, laquelle intervention a été promise par Erdogan, par les Turcs. Donc il y a la question du pétrole, là comme en Irak aussi, des interventions étrangères, des bruits de bottes finalement qui servent un certain nombre de gouvernements. Rappelons qu'il y a quand même une alliance discrète entre les Russes, les Iraniens, les Algériens, au niveau des appareils d'État tout au moins, et que tout ça quand même résonne et fait écho. Donc, vous voyez, c'est pas si éloigné que vous pouvez le penser, ou en tout cas que ce qui a été dit, c'est très connecté au contraire à ce qui se passe entre Turquie, Iran et aussi Libye-Irak.
Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question-là mercredi prochain dans le temps du débat, en nous intéressant à la question du nation building. Est-ce que l'Irak est l'exemple justement de ce qu'il ne fallait pas faire, cette volonté de créer une nation quasiment de toutes pièces, ou de recréer une nation selon la volonté des Occidentaux? On en discutera avec nos invités mercredi prochain. Je voulais vous remercier tous les trois d'être venus pour évoquer justement ce peuple algérien descendant dans la rue. Je rappelle, Karima Dirèche, que vous avez dirigé aux éditions Cartala un très gros livre qui est paru tout juste avant le début des manifestations cette année, L'Algérie au présent entre résistance et changement, qu'on peut vous lire pour votre part, Akram Belkaïd, à la fois dans Le Monde diplomatique, sur le site Orient 21, mais également effectivement dans le quotidien d'Oran, avec cet éditorial donc consacré au peuple héros de l'année, personnalité de l'année pour l'Algérie, et puis également avec vous, Pierre Vermeuren, vous avez participé Akram Belkaïd, un numéro de la revue Esprit sur le soulèvement algérien. Merci à tous les trois. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Antoine Tricot, Rémi Baye, Fanny Richer et Louise André. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Lundi, le temps du débat se posera une question difficile. Pourquoi le terme « droit de l'hommiste » est-il devenu une insulte depuis quelque temps ? Eh bien, effectivement, cette question des droits de l'homme est considérée par certains comme une question accessoire ou peut-être trop souvent reliée à un univers occidental. On en discutera avec nos trois invités de lundi prochain dans le temps du débat. Mais il est 19h sur France Culture. Il est l'heure de retrouver le rappel des titres avec vous, Mathieu Laurent. Bonsoir.